Bon, eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents de manière si matinale, comme hier d'ailleurs. Et donc, comme vous le savez, cette table ronde est consacrée au croisement des genres, et notamment au croisement entre ce qu'on appelle le thriller, le thriller, le thriller, je ne sais pas, bon, comme vous voulez, et la science-fiction. Et donc, autour de moi, il y a des écrivains qui, à un moment donné, n'ont pas hésité à franchir le pas et affronter d'autres genres. Et c'est d'ailleurs, pour le meilleur et pour le pire, mais surtout pour le meilleur, vu que certains s'installent pratiquement dans ce croisement des genres. Donc, je vous présente brièvement les personnes qui vont participer à ce débat. À ma gauche, Georges Panchard. Alors, Georges Panchard est connu pour deux ouvrages, Forteresse et Heptagone. Forteresse qui a été publié en 2005 et Heptagone cette année. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, c'est là encore des thrillers, on en parlera peut-être, qui sont à la lisière, à la limite de la SF. Bon, je crois qu'on ne présente plus Heyerdahl, qui a eu une œuvre importante d'une vingtaine de romans et un recueil. Voilà. Et donc, qui écrit principalement de la science-fiction, mais aussi du thriller. Et notamment, je pense à un thriller qui a eu pas mal de succès, c'est Transparence. Bon, il nous en parlera sans doute. Et puis la suite, peut-être, bon, Résurgence aussi, bon, tu nous en parleras sans doute. Lionel Davoust est à ma droite. Alors, Lionel, lui, a commencé par écrire plutôt de la fantasy, on peut le dire. Et, ouais, c'est ça. Reine et Dragon. Et puis, il a écrit une trilogie qui s'appelle la trilogie de Léviathan, là qui montre une voie qui échappe un petit peu à la science-fiction traditionnelle et une sorte de mélange de thriller et de fantastique et même d'ésotérisme. Je pense que Lionel nous en parlera. Nous terminerons donc la présentation par un petit inconnu qui s'appelle Pierre Bordage, qui n'a écrit qu'une quarantaine de romans. Et plus sérieusement, je crois qu'on ne présente plus Pierre, et je crois que ce qu'il faut retenir par rapport à sa présence aujourd'hui, c'est que bien sûr il est connu comme écrivain de science-fiction et de fantasy, mais à certains moments, il n'a pas hésité à franchir des bornes génériques du côté de l'épopée, du conte, de la fantasy historique, du road movie, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter, la science fantasy, enfin on a évoqué tous ces termes hier, et paraît-il un polar scientifique dont tu nous diras peut-être exactement de quoi ça relève. Bon, voilà, alors pour lancer le débat, je me suis rendu compte que le terme thriller était un terme tout à fait ambigu. J'ai l'impression que les gens y mettent à peu près à tout et n'importe quoi. Donc, petit rappel historique, si on en croit l'origine, le terme thriller est authentiquement américain, d'abord, et il date de la fin du 19e siècle. Son premier emploi est attesté en 1889. Bon, qu'est-ce que c'est devenu? C'est ça, c'est très complexe. Le terme de thriller, visiblement, a été utilisé par les critiques américains pour, disons, suite, par exemple, à la parution du Crime dans la rue Morgue d'Edgar Poe. Et ensuite, quand le cinéma s'est emparé de l'œuvre de Poe, eh bien, on a commencé à utiliser des termes comme fantastique, comme peur, comme épouvante, horreur, etc. Et donc, petit à petit, s'est installée une sorte de confusion, parce que, comme vous le savez, l'œuvre de Poe est rationnelle, contrairement à ce qu'on croit, et le Double Crime dans la rue Morgue est un detective story tout à fait rationnel. Mais par contre, l'ambiance se prête à une certaine forme peut-être de folie, d'irrationnel, de délire. On pourrait dire la même chose, par exemple, du Chien des Baskerville, qui est une enquête parfaitement rationnelle de Sherlock Holmes, mais en fin de compte avec une ambiance fantastique, d'ailleurs qui sera exploitée au cinéma par Terence Fisher, tout le monde connaît. Donc, je crois que peut-être le passage à l'image, on va en parler, va accélérer, disons, cette espèce de brouillage des genres. Et puis ensuite, bon, au XXe siècle, ça va être encore plus compliqué. Il y a des auteurs qui vont associer le polar et d'autres genres, notamment le polar et le fantastique. Je pense à Nevermore de Sjöberg. De Yotzberg, pour ceux qui le connaissent, et puis peut-être Jean Ray aussi, Siod Mack, Robert Bloch, Psychose par exemple. Ce sont des œuvres qui sont tout à fait ambiguës, c'est-à-dire elles sont apparemment rationnelles, mais derrière il y a tout un potentiel d'horreur, tout un potentiel de fantastique qui va être exploité notamment par le cinéma. Donc, on va essayer d'approfondir ce que les universitaires appellent de manière un peu pédante l'hybridité générique pour montrer comment, alors qu'on est dans une sorte de direction lorsqu'on veut écrire de la science-fiction, pourquoi d'un seul coup on oblique ? Est-ce que c'est un processus tout à fait volontaire, ou est-ce que c'est le hasard des inspirations? Voilà. Donc, ce que je vous propose pour commencer, peut-être un rapide tour de table où chacun pourra expliquer un petit peu ce qu'il entend par thriller et si vraiment ça s'applique à l'œuvre qui est en train de se faire. Georges Pancher, peut-être?
Bon, merci. Bon, d'abord, pour moi, c'est un concept qui est assez transversal. Je veux dire, un roman de science-fiction peut être pleinement un thriller. Et vice versa, ça dépend de sa structure, ça dépend de la façon dont il est pensé. Mais j'aimerais dire une chose, il y a du thriller médiéval, je veux dire, ça peut se mélanger à beaucoup de choses. Ce qui me paraît important dans le concept de thriller, c'est qu'il y a une inquiétude parce qu'il y a encore dans la narration quelque chose à sauver ou à perdre. Il y a quelqu'un qui va mourir ou pas, il y a quelqu'un qui va tomber dans les pattes d'un tueur épouvantable ou pas, ou d'un monstre surnaturel. Mais je veux dire, pour moi, le crime de la rue Morgue, c'est pas un thriller. Il y a eu un meurtre, on enquête pour savoir ce qui s'est passé. À l'inverse, le Chien des Baskerville, oui, c'est un thriller, parce que le danger, il est encore présent, on sait pas comment ça va finir, et les personnages, à commencer par Sherlock Holmes, mais aussi l'héritier de la famille, là, etc., sont encore très menacés, et l'horreur peut arriver. Pour moi, il y a cette dimension qui est double dans le thriller. Il y a vraiment encore quelque chose qui est en jeu très fondamentalement et quelque chose de terrible qui peut arriver. Et puis alors ce côté transversal, hein, j'ai pas l'impression de faire des mélanges incroyables en faisant du thriller SF. Et puis ben, dans le style de choses que j'ai écrit, et Dieu sait s'il y a eu des choses dans les dernières 10-15 ans de Gibson à Morgan à tous ces gens là.
Ah ben je vais répéter Georges, mot pour mot.
Donc, suivant.
Non mais, c'est très vrai, finalement, le thriller, c'est une question de... Il y a un suspense terrible et assez effrayant qui attend le lecteur, juste de préférence la fin du bouquin, si on se démerde bien. Voilà. Et le reste, je ne sais pas. Je sais simplement que de temps en temps, ça arrange bien l'éditeur d'avoir une appellation à donner à un ouvrage. Donc mettre thriller aujourd'hui fonctionne un petit peu mieux que d'écrire science-fiction ou d'écrire polar ou d'écrire noir ou d'écrire fantastique. Bon, pour fantasy, on repassera quand même, hein, on a encore un peu de travail. Mais voilà, j'ai vu par exemple sur une de mes quatrièmes couvertures, l'éditeur parler de thriller écologique. Alors bon, c'est sûrement vrai puisqu'il l'a dit et qu'aucun lecteur n'est venu s'en plaindre, mais personnellement je n'ai pas senti totalement que ce roman de pure science-fiction, enfin, je ne voyais pas en quoi il avait quelque chose de thriller et encore moins d'écologique d'ailleurs. Mais bon voilà, c'est assez rigolo.
D'accord. Donc on va continuer. Je crois comprendre donc l'appellation thriller serait tout simplement une invention d'éditeur.
Tu t'es arrêté un peu tôt dans les acceptions du genre. Il y a une acception plus récente du mot thriller qui est, dans la littérature, grosso modo, dire c'est un polar qui se passe à l'échelle mondiale avec une angoisse tendue, l'angoisse tendue des romans d'espionnage. Hein. Grosso modo, on en est à peu près là. Et c'est vrai, quand j'ai écrit Transparence et Résurgence, je n'ai fait que reproduire ça, en utilisant quelques ingrédients qui étaient externes au genre, mais voilà.
Ok. Lionel.
Sur la définition du thriller, pour moi, tout simplement, ça revient au mot anglais qui est to thrill. Et le thrill, c'est tout simplement, c'est le frisson. Donc c'est le frisson qui fait peur, mais quand même bien avoir peur quand même. C'est typiquement les montagnes russes. Ça vous fait peur, vous criez, mais en même temps vous trouvez ça sympa. Et cette acception, elle change en fonction de l'époque et en fonction de ce qui fait frissonner et du référentiel des gens. Donc quelque part, c'est une étiquette qui est très vaste et comme ce qu'ont dit mes deux prédécesseurs, qui est très transversale. Quelque part, ça serait peut-être plus un traitement d'ailleurs qu'un genre en soi. Alors aujourd'hui, effectivement, comme le rappelait Yerdal, c'est aussi une étiquette éditoriale et on a une exception aujourd'hui qui est celle qu'a rappelé Yerdal à l'instant. Mais dans l'absolu, c'est du roman à frisson et le frisson, ça peut venir d'un tas de choses. Ça change en fonction de l'époque et c'est pas non plus, c'est surtout, c'est pas associé à un genre en particulier.
Donc, ça ne serait pas un genre, Pierre.
Pourquoi faut que ça tombe sur moi? Mais j'ai rien demandé, moi. Pour moi, le thriller. Alors, le thriller tel que défini commercialement, comme le disait Yal, j'ai l'impression que c'est une technique narrative très précise, avec des chapitres très courts, beaucoup de changements de pays, du mouvement. Et une sorte de volonté de patch-turner, hein, je crois, qui caractérise tous les thrillers. Et moi, j'étais très surpris, parce que c'est ce que j'essaie de faire à tous mes bouquins, c'est-à-dire de faire en sorte que le lecteur tourne les pages. Que ce soit un bouquin de science-fiction, de fantasy ou de n'importe quoi, mon but à moi en tant qu'auteur, c'est que le lecteur s'intéresse à l'histoire au minimum, donc il ait envie de tourner les pages. Après, je me suis rendu compte, parce que je fais toujours les choses sans m'en rendre compte, que Porteur d'âme, qui est un bouquin que j'ai écrit il y a 5-6 ans, était classé dans la catégorie thriller parce qu'il participait à des prix thriller. Et je savais pas. Je me suis dit pourquoi ? Parce qu'il y a un flic dedans, il y a une enquête, il y a du suspense, mais pour moi, ça changeait rien de tous les bouquins que j'avais faits. Et après, je me suis un peu intéressé, j'ai essayé de lire certains thrillers, et pour moi, je trouve ça assez épouvantable en fait, à lire souvent, parce que justement, on peut deviner cette espèce de structure schématique qui m'agace au plus haut point, parce qu'on sent très bien qu'il y a une technique narrative qui prend le pas sur toute autre considération. Et ce que j'ai beaucoup aimé de Transparence de Yal, c'est que justement, lui, il prenait le temps, il n'avait pas cette espèce de système haletant obligatoire du thriller qui finit par m'agacer, parce que du coup, ça devient une sorte de technique, et que au-delà de la technique, il ne reste plus grand-chose. Je trouve que c'est très schématique, finalement, le thriller, souvent. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne définition ou pas, mais voilà. Mais moi, si je fais du thriller, c'est que je ne m'en rends pas du tout compte, c'est que j'explore un domaine qui est peut-être plus contemporain que d'habitude, et que d'autres gens, alors est-ce que ce sont les lecteurs, les éditeurs, les critiques et tout ça, classent ce bouquin dans un sous-genre, ce qui m'arrangeait bien, parce que ça donnait accès à un lectorat que je n'avais pas du tout l'habitude de voir, et qui m'ont dit... Ah mais, alors donc c'était catégorie thriller, hein, prix des comités d'entreprise, catégorie thriller, ils m'ont dit, ah mais c'est vachement bien la science-fiction. Donc voilà, c'est une confusion des genres assez épouvantable, mais finalement ils ont découvert la science-fiction par mes thrillers, donc c'est plutôt sympa.
Confusion des genres. Ouais. Parce que c'est exactement ça.
Oui, mais c'était ça qui m'intéressait, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne seraient jamais rentrés dans un livre estampillé science-fiction parce que ça ne se fait pas. Et d'un seul coup, puisque c'était un thriller et puisque c'était un prix, ils pouvaient rentrer dedans et du coup, on pouvait leur glisser de la science-fiction et ils acceptaient très bien la science-fiction. Donc, si on peut gagner du lectorat ou montrer au lectorat que le genre SF est un genre très riche en utilisant l'habillage du thriller, alors ça me paraît déjà intéressant.
Je crois savoir que dans l'histoire de la science-fiction, il y a eu des sous-genres qui sont apparus plus vite qu'on ne le croit, notamment les détectives de la science-fiction. Mais je ne suis pas du tout sûr, je pourrais vous donner une liste, bon, enfin, des gens comme Alfred Bester, mais je ne suis pas sûr que ça soit du thriller. Qu'est-ce qu'il faut ajouter disons, à ces ingrédients pour que ça devienne du thriller. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement revenir à ce que je disais au départ, c'est-à-dire une petite dose de peur ou d'horreur, et peut-être une ambiance fantastique, sans aller jusqu'au fantastique. Mais là, Lionel ne serait sans doute pas d'accord.
Oui. Non, mais une chose par rapport à ça quand même qui me semble importante. Il y a ce côté thrill. Donc, il y a un enjeu narratif. Et à un moment, il va y avoir une forme d'affrontement. Et quelque chose de terrible va arriver ou pas à quelqu'un qu'on apprécie. Et là, je trouve que dans le thriller, il y a inévitablement un côté un petit peu intimiste. Parce que c'est une personne ou un très petit groupe de personnes à laquelle qui risque de subir quelque chose de terrible. Est-ce que ça va se passer ou pas? Mais je veux dire, quand il y a une bataille, soit en armure, soit avec des vaisseaux spatiaux, avec 500 000 guerriers de chaque côté, on peut souhaiter vraiment et très vivement la victoire d'un camp sur l'autre. Ça peut être très indécis, on peut se ronger les ongles. Mais j'ai de la peine à qualifier ça de thriller. Cette peur qu'on a, c'est pour quelqu'un à qui on peut s'identifier, et j'ai un peu le sentiment que ça a inévitablement un côté un peu intimiste. Et ça n'engage que moi. Hein.
D'accord. Non, parce qu'en effet, par rapport à Forteresse, par exemple, on peut se demander qu'est-ce qui pourrait le différencier d'un type de science-fiction conventionnel, par exemple. Quels sont les ingrédients qu'il y a dans Forteresse ou Heptagone ou qui pourraient justement inciter une certaine critique à dire tiens, ça c'est du thriller et non pas de la science-fiction classique.
Alors c'est assez drôle. Avant que, fort heureusement, le manuscrit aboutisse chez Gérard Klein après un échec technique de communication qui fait que, pour différentes raisons, ça avait fini chez Imaginaire sans frontières, qui s'était jeté dessus immédiatement, et moi j'avais signé comme un con. Mais il y avait une période limite de validité après quoi le contrat tombait, puis ISF n'existait plus, bon voilà. Stéphane Nico m'avait dit je vais pas le mettre en marketing comme science-fiction, je vais le mettre en thriller. Bon, y a une chose qui est assez intéressante et qui est assez peu thriller dans ce roman, c'est-à-dire que on sait qu'il y a, comme on dit, un contrat qui est lancé sur quelqu'un. Le personnage principal tient à protéger cette personne. Par contre, je crois que le lecteur, il peut s'identifier au défenseur, mais il va pas au protecteur. Mais il va pas s'identifier à la victime. Finalement, moi-même, le fait que le personnage qui est visé meurt ou pas, en fait je m'en foutais un petit peu. Mais il y a un certain nombre de mécanismes, et puis ce côté de relation directe à l'action individuelle de personnages, et puis la complexité de l'intrigue, parce que c'est aussi souvent, me semble-t-il, un élément de thriller, une certaine complexité d'intrigue, notamment au cinéma, qui ont permis de répondre et de remplir les caractéristiques de ce genre.
D'accord. J'ai envie de demander à Yardal comment ça s'est passé. Est-ce qu'il a eu vraiment conscience d'une sorte de passage à un autre genre? Parce que, en fin de compte, si on prend Demain une oasis, ça date tout de même de 1991, il y avait déjà des éléments de thriller. Tu as décidé un jour, tiens, je vais faire du thriller. Comment ça s'est passé?
Vous êtes tous prêts à me détester? Allez, c'est parti. On va dévaloriser un petit peu l'auteur. J'ai volontairement écrit quelque chose qui serait catalogué en thriller pour gagner plus d'argent. Parce que la science-fiction me nourrissait très mal. Et ça a merveilleusement fonctionné. À partir du moment où le bouquin m'a introduit dans les salons de polar et dans les critiques littéraires qui s'intéressent au polar et au thriller, les ventes ont explosé. Donc j'étais ravi, j'ai réussi mon coup. J'ai pas l'air très malin là en disant ça, malheureusement c'est très vrai. Ceci dit, d'un point de vue narratif, j'ai utilisé tout ce que j'utilisais déjà. Quand j'écrivais de la pure science-fiction, comme tu l'as rappelé, Demain une oasis, et il y a d'autres ouvrages. Étoile mourante, peut-être pas, parce qu'on l'a écrit à deux et qu'on a essayé de brasser nos plumes, etc. Mais j'ai utilisé les ressorts mécaniques, les constructions de personnages, les interactions entre personnages, l'espèce de compréhension et de appréhension plus exactement que tous les personnages ont du monde et non pas simplement de l'endroit dans lequel ils se trouvent, qui sont typiques de la science-fiction. C'est peut-être d'ailleurs ce qui a permis à Transparence d'avoir un succès aussi rapide et aussi inattendu, soyons francs, même si j'espérais vendre un petit peu plus que d'habitude. Là, c'est carrément une explosion. Et, parce que les lecteurs habitués au genre pur thriller n'étaient pas habitués à ces techniques narratives qui sont spécifiques à la science-fiction.
Je ne vois pas ce qu'il y a de répréhensible à vouloir toucher de nouveaux publics. Hein. Est-ce que vous...
Non, mais j'aime bien le dire. Il l'avait déjà dit comme ça, Pierre. Alors moi, je préfère le dire. Je remplace le mot public par argent parce que ben, je suis un professionnel. Quoi.
Bon.
Les auteurs sont de purs esprits, tu le sais très bien.
Je vais oublier.
Donc, Lionel, est-ce que tu penses que, en fin de compte, par rapport à ta trilogie, par exemple, il y a une particularité qu'on ne trouve pas, disons, chez nos amis, par exemple, du point de vue du fantastique, de la croyance, de l'occultisme.
Dans Léviathan, moi, j'étais parti d'une série de constatations et d'envies que j'avais de faire. Déjà, j'étais un peu comme toi, Pierre. Moi, je suis toujours ennuyé quand le grand public de littérature générale regarde la SF ou la fantasy de loin en disant, de toute façon, en général, ce truc typique, c'est non, de toute façon, je dis pas de l'SF. Par contre, 1984, c'est vachement bien. Oui, non. Et bon, donc c'est quand même, il y a un coup pour ça. Donc j'avais envie de placer une histoire vraiment d'imaginaire, mais dans un contexte actuel, et pour essayer de mélanger les deux, et peut-être essayer de ramener un peu à essayer de montrer à un lectorat qui n'a pas l'habitude que non, c'était pas sale. Alors, après, en dehors de ça, moi, tout simplement, c'est du thriller ésotérique, mais souvent dans le thriller ésotérique, à la Dan Brown ou donc souvent le thriller avec il faut lutter contre la montre parce que sinon le Vatican va exploser et qu'il y a des sociétés secrètes qui cachent des trucs au fond d'un puits dans des coffres, mais fréquemment en fait en réalité ces arguments là donc il y a tout l'emballage de l'histoire mais ça n'a pas grande influence en fait en réalité sur l'intrigue, c'est à dire qu'on pourrait parler de plan d'armes nucléaires, ça n'aurait pas vraiment de grande influence. Moi, simplement, j'avais envie de prendre les traditions initiatiques et de partir de l'hypothèse que ça marchait pour de vrai. Donc, s'il y a des types qui font de la magie dans les sociétés secrètes, bah, c'est parce que ça marche. Donc, à partir du moment où il y a de la magie, pour moi, c'est de la fantaisie urbaine, parce que c'est contemporain. Mais voilà, c'est après l'éditeur qui, voyant que c'était dans un contexte actuel... Moi, j'avais juste envie d'écrire une histoire qui bouge, parce que c'est ce que j'aime faire dans ce contexte-là. C'est l'éditeur, après, qui, voyant que c'était contemporain, que ça se passait aux États-Unis, qu'il y avait une société secrète, et que c'était une histoire qui avançait, qui a dit, bah, c'est du thriller. Mais moi, à la base, j'avais proposé ce projet-là, on m'avait dit d'accord, et c'est après, l'étiquette a été mise. J'ai dit, bah, ok, très bien. C'est un peu le même raisonnement que Yal, en me disant, bah, si ça peut ouvrir des portes, c'est toujours bien.
Il y a tout de même une mode... Une mode du polar ésotérique hein, qui rejoint évidemment le thriller et qui, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas si neuf que ça, vu qu'on peut trouver cette tradition-là au XIXe siècle. Beaucoup de gens qui écrivent du fantastique, des gens comme Conan Doyle, par exemple, virent très souvent du côté de l'occultisme ou de l'ésotérisme. D'ailleurs, lui-même était un spirit. Est-ce que tu penses, Pierre, que en fin de compte, par rapport aux idées qu'on évoquait d'ailleurs hier sur les croyances, est-ce que tu penses que les ressorts du thriller peuvent contribuer, si tu veux, à mieux faire passer ces idées-là, ou tu penses que c'est totalement extérieur
hein? Je ne sais pas si je pense encore à cette heure-ci. Je vais essayer. Je vais reprendre la citation de.
Je vais faire l'étrade en même temps.
Je vais reprendre la citation de Audiard. Hein, les cons savent tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Donc je suis assez con. Et donc j'ose à peu près tout. C'est-à-dire que quand j'ai besoin d'un truc, bah, j'y vais, je vais le prendre. Parce que je fais des romans qui se passent soit dans le passé, soit dans le présent, soit dans le futur. Et que donc j'utilise les ressorts romanesques à ma disposition pour explorer ces périodes-là. Et encore une fois, les classifications, ce n'est pas vraiment mon problème. Le problème, c'est le problème des éditeurs et autres. Donc, j'essaie d'utiliser tous les registres à ma disposition pour faire en sorte que le bouquin tienne debout. Hein, tout simplement, il y a vraiment un travail de cohérence à faire à chaque bouquin. qui n'est pas forcément le même selon qu'on se place dans le futur, dans le passé ou dans le présent. Mais oui, je suis prêt. La technique narrative, à partir du moment où elle sert mon livre, je l'utilise sans aucun problème, de façon totalement inconsciente, souvent, ou innocente, sans chercher à faire un truc. Il se trouve que j'essaie de m'adapter au roman qui se passe et que moi, je ne fais jamais de plan, par exemple. Sur un thriller, je pense que les gens font des plans. Ils essaient de savoir qui est l'assassin à la fin. Moi, je ne sais même pas. Donc, je le découvre aussi à la fin, en même temps que le personnage. Donc, je travaille en immersion. Donc, après... Je ne sais pas comment trop ça fonctionne. Pour moi, l'écriture, c'est une exploration inconsciente. Et encore une fois, quand ça se passe dans le présent, parce que le thriller, c'est souvent dans le présent ou dans un futur légèrement, enfin dans un présent légèrement décalé, une sorte de futur très proche, bah, j'utilise les ingrédients qu'il faut pour ça, j'utilise les personnages qu'il faut pour ça. Si dans Porteur d'âme, par exemple, il y a un flic, bon, voilà, il s'appelle Edmé, c'est un flic à la retraite. J'ai travaillé le personnage archétypal du flic désabusé qui est revenu de tout et qui va se lancer dans une dernière enquête qui va, dans laquelle il va trouver une sorte de signification à la vie. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Ce sont les personnages. Tu parlais tout à l'heure des destins individuels. Je pense que les romans, c'est de la matière humaine et donc on s'adresse à des personnages. La technique narrative importe peu. Finalement, le principal, c'est de réussir son bouquin. De faire en sorte que, comme disait Card, je reprends Card, dont le candidat a perdu aux élections récemment, je rappelle, qui disait que voilà, on monte une narration, c'est un mensonge, et on va faire en sorte de crédibiliser le mensonge pour que ça fasse vrai. Et probablement que dans ce mensonge-là, et le thriller en fait partie, parce que c'est un mensonge, c'est une fiction, dans ce mensonge-là, on va déterrer des vérités qui sont archétypales, donc universelles. Voilà, c'est ça le propos de l'écriture pour moi, que ce soit dans un genre ou dans un autre.
J'observe tout de même, il y a une prolifération du terme thriller qui devient tout et n'importe quoi. Je veux dire, alors
il y a une grosse mode. Il y a eu des thrillers suédois. Il y a eu après, il y a des modes comme ça qui sont des coups éditoriaux, je pense. D'accord. Beaucoup. À partir du moment où un truc marche, tout le monde se rue dans la brèche et puis essaie de. Et puis après ça. On va passer à autre chose, ça va être la bitlit, les vampires, puis après ça va être ceci, ça va être cela.
Voilà. Ah oui, alors attention, là on passe au fantastique, mais parce que ce qu'on appelle par exemple les techno-thrillers, bon, de Tom Clancy ou de Michael Crichton, c'est pas toujours du fantastique. Hein. Bon, par contre, il y a des thrillers surnaturels. Bon, avec Stephen King, mais est-ce que le cinéma aussi n'accélère pas ce mouvement? Je veux dire, on parle par exemple de films, des thrillers de science-fiction, parce que Jurassic Park, c'est tout de même un thriller d'une certaine façon, Predator ou Robocop, bon, etc., on pourra en trouver beaucoup. Est-ce que le cinéma n'accélère pas ce processus, de thrillerisation, disons, de tout ce qui paraît aujourd'hui, parce qu'on pourrait ajouter les thrillers historico-ésotériques, etc., etc. Qu'est-ce qui échappe aujourd'hui au thriller? Le terme paraît... Assez vague en fin de compte.
J'ai envie de dire rien n'y échappe et il n'y a pas de raison. Quel que soit le type de narration qu'on écrit, il peut y avoir un certain nombre de caractéristiques qui fait qu'on peut arriver à mettre le qualificatif de thriller dessus. C'est vraiment quelque chose de transversal et c'est vraiment un type d'émotion, de narration. Qui peut de sentiments, de craintes, d'espoir, qui peut s'inscrire dans des types très différents de narration et d'environnement. Et pour le cinéma, oui, certainement, oui.
Oui, Alien, d'un seul coup, montre que la science-fiction peut déboucher sur l'horreur. En fin de compte, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais c'est...
Je vais t'aider un peu. La chose qui venait d'ailleurs, qui est beaucoup plus ancienne que ça.
Ben voilà, c'est ça. Que
donc, on a toujours eu besoin de frissonner de toute façon, quand qu'on soit lecteur ou spectateur de cinéma. Pas tout le monde, hein, y a des gens qui ne supportent pas ça, mais il y a quelque part cette recherche de la petite chose qui va nous donner un petit plus. Là. Après, qui est depuis récemment un phénomène de mode qui a touché à la fois le cinéma et la littérature, qui nous viennent en direct des États-Unis, parce que dans le thriller, c'est relativement typique. Je voudrais prévenir les jeunes auteurs, faites gaffe, n'en écrivez plus. Hein. C'est terminé, les chiffres de vente, c'est une catastrophe en ce moment. que ce soit au cinéma ou que ce soit en littérature. C'est-à-dire que cette mode a été relativement brève et on a tellement exploité le mot thriller pour tout et n'importe quoi qu'il a perdu, il a perdu tout sens. Et donc, c'est ce que tu disais, ben après tout, ben tout le monde, tout est thriller, on en fait tous. Il vaudrait peut-être mieux revenir à des bases, à dire, ben tiens, voilà, cette fois, j'ai écrit un roman contemporain, puisque ça se passe de nos jours, ou j'ai écrit un polar, puisqu'il y a un flic, ou j'ai écrit de la science-fiction, parce que je suis légèrement décalé, ou j'ai fait un roman historique, parce qu'il y a des domaines dans lesquels on fait voilà, aussi du thriller.
Oui, parce qu'il y a énormément de bouquins historiques aussi qui échappent, disons, à leur... caractère, comment dire, générique, classique, pour d'un seul coup être imbibé de mystères, de sociétés secrètes, de complots. Il faut dire, le conspirationnisme est passé par là, hein, avec des traces tout à fait palpables.
Bah, Umberto Eco, je veux dire...
Je pense que ça commence en effet.
On est là typiquement dans le thriller historique, alors a priori, qu'est-ce qui fait que c'est un thriller ? C'est cette espèce d'ambiance qu'il crée et qui, et ben voilà, on tourne les pages là, et on les tourne les pages, hein, parce que on veut savoir, on veut d'abord connaître quel est le prochain qui va crever. Pardon, ça se dit pas, ça aussi, hein. C'est mal. Ah bon. Et puis éventuellement essayer de comprendre cette intrigue, etc. Et c'est magnifiquement fait. Alors qu'on peut aussi enlever le mot thriller et dire que c'est un roman historique, extrêmement cultivé.
Oui, mais il y a aussi. Pardon.
Enfin, quand on parle des intrigues de type moyenâgeuse, on était quand même en plein dedans. Quand on a des familles comme les Tudor ou les Borgia, on a des séries télévisées là-dessus maintenant. Et en partie avec le surnaturel en plus, c'est ce que George Martin utilise beaucoup dans Song of Ice and Fire, enfin le Trône de Fer. Là, il y a le mélange des deux. Mais enfin, les intrigues moyenâgeuses, il y a de quoi continuer à écrire du thriller pendant quelques siècles, et les empoisonnements, les spadassins, les trucs, enfin, les alliances, les retours, les trahisons, on est en plein dedans. Hein.
Il y a un retour prodigieux, d'ailleurs, du médiéval aujourd'hui. On pourrait se demander, mais c'est pas le but de cette table ronde, c'est qu'est-ce qui échappe aujourd'hui à ce retour du Moyen-Âge ? C'est invraisemblable. Je veux dire, la fantaisie n'est qu'un des... une des expressions de cette mode invraisemblable. Est-ce que tout ça n'est pas un retour, en fin de compte ? Qu'est-ce qu'il y a vraiment de neuf dans le recours au thriller ? C'est toucher un nouveau public qui peut-être avait oublié ce qui s'était passé avant ? Bon, d'accord. Alors, je vais tenter... Georges Panchard a utilisé un terme qui est important, transversal. Je veux dire, on est tous ici intéressés par la science-fiction et on se rend compte tous que la science-fiction déborde les cadres. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et en fin de compte, quelquefois, la science-fiction est un mot assez vague qui est le seul mot qui permet d'appeler un phénomène de l'imaginaire qui est multiforme, hein, polymorphe. Et je me demande si la science-fiction, parce que tout le monde ici a une base science-fictionnelle ou de fantasy, est-ce que ce n'est pas justement le bon tremplin pour aller vers d'autres genres ou d'autres sous-genres ? Je veux dire par là, est-ce que ce n'est pas plus facile de passer de la science-fiction au polar ou au fantastique qu'un écrivain de polar, d'un seul coup, qui se met à écrire du fantastique ?
Pour moi, il est évident quand on a l'habitude de manipuler la science-fiction, qu'il y a quand même certaines exigences. Certes, c'est de la fiction, mais il y a le mot science qui nécessite qu'on ait un minimum de crédibilité. Et puis, on a l'habitude de construire des univers de A à Z, parfois. Hein, que ce soit d'un point de vue astronomique ou que ce soit d'un point de vue sociétal. Donc, on sait manipuler des tonnes de données et se fabriquer une documentation à l'échelle d'un monde, parfois d'une galaxie, d'un système stellaire. Enfin, voilà, donc c'est très facile après de venir taper dans le contemporain. Honnêtement, la documentation, là on n'a même plus besoin de l'inventer, on la trouve sur Internet ou éventuellement on va prendre rendez-vous avec des gens qui savent. Ça c'est pour les plus courageux, ceux qui savent marcher. Moi, il n'y a qu'Internet qui me documente. Et puis on travaille à partir d'un monde qui est tout fait. Alors vraiment, il n'y a rien à retoucher. On a juste à balancer, parce qu'on sait le mieux faire finalement, c'est raconter une histoire dans un contexte qui est déjà prédéfini.
D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord?
Par rapport à ce que disait Éternel Retour, il me faut faut le temps que le café macère, quoi. Non, mais après, ça me fait penser que après, je réfléchissais pour avoir par rapport au schéma narratif. Ils sont là depuis la nuit des temps. Dans l'Iliade et l'Odyssée, dans l'Odyssée, on a un suspense qui est Ulysse retrouvera-t-il son île et chassera-t-il les prétendants qui ont pris sa place dans son palais. Dans le mythe sumérien de Gilgamesh, est-ce que Gilgamesh va retrouver la plante d'immortalité, qu'est-ce qu'il en fera, etc. Est-ce qu'il pourra ressusciter son ami Enkidu qui est mort? Donc tous ces schémas narratifs de suspense, enfin de savoir ce qui va se passer, c'est déjà là depuis la nuit des temps. Alors j'ai l'impression qu'effectivement on le réhabille avec des nouveaux trucs parce qu'il y a la technologie qui est arrivée, il y a tout ça, il y a une sorte de définition différente du monde, mais le schéma narratif en lui-même, il est là, on se sert, nous les auteurs, on se sert de principes qui ont été posés par les auteurs depuis la nuit des temps, finalement, j'ai l'impression.
Pour ma part, j'ai pas.
Moi, je voudrais répondre à la question que tu as posée il y a une.
Oui, oui, d'accord, mais en fait, tout le monde n'était pas là hier non plus. Mais j'ai personnellement étudié un sous-genre qui n'est pas très connu, qui s'appelle les détectives de l'étrange, c'est-à-dire le mélange entre polar et fantastique. Et là, c'est très clair qu'il y a un lien entre la quête et l'enquête. Hein, et je pense que ça correspond tout à fait un peu à ton travail.
Oui, tout à fait. Pour un peu justement rebondir sur la question du thriller en tant que genre ou traitement ou finalement étiquette qui est devenu assez dilué, une question intéressante que mon éditeur m'a posée quand on a sorti le premier Léviathan, c'est d'accord, c'est du thriller, mais vous le définiriez comment? C'est donc pas ésotérique. Pour moi, c'était plutôt justement du thriller initiatique, puisque à travers puisqu'il y a effectivement un complot, on suit un des personnages principaux est au centre d'une machination dont il est à la fois la clé de voûte et la victime. C'est-à-dire, c'est à la fois la clé et la personne qui peut se faire tout s'écrouler. Et en fait, à travers l'enquête justement, et c'était mais on retombe effectivement sur des schémas de narration archétypaux, puisque à travers cette enquête qui a un côté policier, puisqu'il y a des sociétés, il y a une société secrète, des machinations, des malversations, ce genre de choses. À travers ça, il y a aussi le miroir, ce qui est en haut et comme ce qui est en bas, qui est la quête du propre personnage sur son propre passé et finalement sur lui-même et sur son identité. Et là, on tombe carrément dans un ressort de fantastique et de fantasy. Donc, effectivement, comme souvent l'enquête change le personnage, puisque c'est son trajet dans le roman et en général il peut apprendre des choses au fur et à mesure et ça va et même dans un polar classique là effectivement le fait d'avoir de fantastique ou un argument d'imaginaire, on gagne la possibilité, on gagne la dimension de métaphore que l'imaginaire apporte souvent et qui permet justement de porter ce genre de symbolisme vers un autre niveau où la quête personnelle et la quête du sens devient effectivement une quête à proprement parler, une quête archétypale.
J'ai l'impression que les définitions classiques des genres commencent à s'estomper et qu'on se rend compte qu'en fin de compte c'est beaucoup plus élastique qu'on ne le croit. Là c'est très nouveau, je veux dire, peut-être il y a 10 ans aux premières utopiales des polars initiatiques ou de la fantasy ésotérique ou des thrillers occultes ou occultistes, bon, ça serait peut-être dérangé. Aujourd'hui, ça me semble, la parole semble libérée d'une certaine façon.
J'ai envie de dire simplement que pour moi, c'est très clair que ces définitions, elles peuvent parfaitement être cumulatives et qu'elles ne sont pas exclusives. Ça me paraît quand même central dans ce débat.
Oui, je vais dire la même chose autrement. Finalement, nous sommes des romanciers, point.
Ah, voilà. Ben, bravo. Tout ça pour en arriver là.
Il y a un truc qui est compliqué avec en plus les genres dans la littérature de l'imaginaire, c'est que il y a effectivement les définitions théoriques qui sont quand même globalement assez bien arrêtées, mais après il y a toute une série d'étiquettes que les éditeurs placent sur les livres de façon à ce que les livres arrivent à trouver leur public. Mais ça me rappelle par exemple la profilifération de l'étiquette de fantasy à l'époque de Pocket, où on avait par exemple Lovecraft qui était étiqueté comme étant la dark fantasy. Alors je pense qu'on est tous plus ou moins d'accord, c'est du fantastique, tout simplement. On pourra aussi arguer que c'est de la SF, bref. Mais il y a eu toute cette espèce de prolifération de dark fantasy, light fantasy, high fantasy, tout simplement parce que fantasy était le truc qui marchait bien. Et que donc, du coup, on s'est mis à assaisonner le mot fantasy un peu à toutes les sauces, comme on le ferait un peu aujourd'hui du thriller.
On est quand même allé jusqu'à science fantasy chez Gélu.
Tout à fait. Ouais.
Moi, je fais de la science fantasy, par exemple. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'en fais. Je suis très fier.
Oui.
Si je peux encore ajouter quelque chose. Le fait qu'après coup, quand le livre est écrit, l'éditeur fasse un travail de marketing et d'appel en mettant dessus un tampon qui va attirer. C'est une chose, ça me paraît pas très grave. Après, c'est au lecteur de voir ce qu'il en est. Et puis, il y a assez de réseaux, de forums, de choses pour que les critiques, les analyses, les avis se diffusent. Là où ça peut devenir très grave, c'est s'il peut y avoir de la part des éditeurs, et je suppute que ça peut être assez largement le cas, notamment aux États-Unis, une exigence antérieure à l'écriture, c'est-à-dire un formatage. Demander à l'auteur, exiger pour que ça rentre dans un certain créneau, et puis avec ce qu'ils appellent un editing, donc pratiquement une réécriture du bouquin, pour que ça soit vraiment que ça corresponde à une sorte de cahier des charges initial.
Oui, c'est comme ça que je voulais dire tout à l'heure. Ouais,
comme on dit à. Mais j'aime répéter ce que tu dis parce que je me sens.
T'aimes que je te serve du vin et
Je me sens porté. j'ai une caution morale. parce que si ça part dans cette direction, alors ça, c'est beaucoup plus problématique.
Oui, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est ça, c'est que souvent les thrillers sont des caricatures de thrillers maintenant. Ouais. C'est-à-dire que. C'est pour ça que le schéma est tellement bien établi, tellement préparé, donc ça devient plus du tout intéressant parce qu'il n'y a plus cette espèce d'originalité de l'auteur qui donne une autre vision du genre.
Alors pour toi, qu'est-ce que c'est l'authentique thriller, le Merde. Vrai
Ah ouais. Je ne sais pas, justement, il n'existe pas, enfin, il n'y a pas d'authentique. Je pense que chacun a sa propre définition du thriller, chacun a sa propre façon d'écrire, et surtout pas une copie, surtout pas de faire une caricature de thriller parce que ça doit être comme ça et qu'il doit y avoir 500 pages et 127 chapitres à peu près, de 3 pages et demie, et que ça tourne tout le temps, et qu'il y ait une sorte de technique qui étouffe complètement la créativité de l'auteur. Pour le reste, il n'y a pas de définition. Un bouquin est réussi ou n'est pas réussi, c'est tout. Il est riche ou il n'est pas riche, il apporte quelque chose au lecteur ou il n'apporte pas quelque chose au lecteur. Mais souvent, des thrillers que j'ai lus, je me suis forcé de lire pour voir ce que c'était. Je les oubliais aussitôt après les avoir finis, quoi, parce qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de substance. Finalement, c'était des coquilles vides de thrillers. Et c'est ça le danger de la collectionnite éditoriale.
Ouais. Ça, on aboutit dans ce cas-là à des livres, à des romans dont on se dit que. J'oublie pas que j'écris de la science-fiction, mais que à la limite, c'est des livres que des programmes informatiques pourraient écrire.
Oui, c'est ça. Il y a une notion de programme informatique. Oui.
Là, je vous préviens, c'est encore de la science-fiction, mais faites gaffe, ça ne va pas durer. Ça va bientôt être du thriller. Je voulais, pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, il y a effectivement une volonté éditoriale de normaliser, normifier même. Tu vois, il faut inventer des mots parfois pour, de façon à ce que quand un ouvrage a connu un succès, derrière, on essaye de refabriquer 100 fois le même succès avec d'autres auteurs, etc. Mais il y a aussi une volonté des auteurs de faire la même chose. Et on a vu après le succès extraordinaire de ce chef-d'œuvre. Terrible. Où on voit quand même l'arc de triomphe à partir de l'arche de la défense. Sauf que vous avez reconnu Dan Brown là-dedans. Donc il y a eu un succès extraordinaire. Il y a plein d'auteurs qui se sont dit mais je vais faire la même chose. C'est génial. Il n'y a rien de plus facile à écrire. Et je vous dis ça parce qu'il y en a parmi mes amis auteurs et qui ont essayé. Et pire, il y en a même qui y sont arrivés. Donc ils n'ont pas eu le succès de Dan Brown. Mais ils ont eu quand même eu un succès relatif et ça a marché un temps. Sauf que maintenant, ça se multiplie le nombre d'auteurs qui ont envie d'écrire ce genre de bouquin et se multiplie le nombre d'éditeurs qui ont envie d'en publier. Résultat, on tue la poule dans l'œuf ou l'œuf dans la poule et ça va bien m'arranger parce que moi, je voudrais changer de genre maintenant. Là.
Mais c'est vrai qu'il y a une prolifération donc, du polar ésotérique. hormis ces conventions, disons, éditoriales, cette mode, il y a tout de même quelque chose peut-être de plus profond derrière cette mode aujourd'hui. Elle correspond peut-être à quelque chose de plus actuel dans le bouleversement du monde, par exemple, une sorte de besoin du public aussi.
Alors, sur la dimension purement donc ésotérique des choses, alors pour juste dire un mot sur le mot ésotérique qui, en général, donc est devenu synonyme de société secrète avec des francs-maçons qui mettent des symboles sur des pierres, enfin bref. L'ésotérisme, à la base, hein, tout simplement, étymologiquement, c'est simplement ce qui est caché, par opposition à ce qui est exotérique. Chez les philosophes grecs, il y avait l'enseignement exotérique qui était disponible à tout le monde et l'enseignement ésotérique qui était disponible qu'aux happy few, qui étaient les initiés. Donc c'est tout. Donc par définition, tout ce qu'on ne sait pas, c'est de l'ésotérisme. Donc par définition, c'est une super matière romanesque parce qu'on peut vous dire qu'il y a des confréries qui datent de la nuit des temps. On a eu une conférence l'année dernière d'ailleurs sur le thème, je crois. Et donc, bref, sur l'aspect purement, après, l'ésotérisme vient taper dans tout ce qui est... Tradition initiatique au sens large, quelle que soit leur origine. Donc ça va des philosophies de l'Inde ancienne, en passant par l'occultisme occidental, etc. Sans faire des grandes tartes à la crème sur l'état du monde, je pense qu'il y a une relative déception des gens concernant les modes initiatiques classiques, et donc il y a une certaine curiosité vis-à-vis de ça. Et donc c'est vrai qu'avoir des sociétés secrètes qui contrôlent les ficelles du monde dans l'ombre et qui en plus emballées avec une histoire avec du suspense, c'est intéressant, c'est amusant, et en plus et pour compléter ce que dit mon ami Yal sur le mal sur Dan Brown, Dan Brown a eu tout un tas de, on voit en fait l'engouement des gens pour une recherche d'une forme de vérité à travers cet ésotérisme, cette initiation-là. Quand il y a eu tous les voyages organisés, aller découvrir le trajet dans Paris de la preuve du prieuré de Sion. Dan Brown d'ailleurs qui dit dans la page de garde que le prieuré de Sion existe depuis hyper longtemps alors que ça a été fondé en 1963, mais bon bref. Donc il y a aussi effectivement une... Il y a, je pense, un intérêt du public. Moi, c'est un intérêt que j'avais aussi. J'écris Léviathan parce que j'avais envie justement de raconter une histoire initiatique, mais en un sens une vraie, c'est-à-dire avec les archétypes, l'archétype de la quête de la fantaisie, la quête de soi. Alors, c'est pas un type qui va balancer un anneau dans une montagne, mais vraiment la recherche de l'identité qui est finalement et l'accomplissement de soi qui est un des schémas archétypaux de la fantaisie. Donc je pense effectivement oui il y a un intérêt du public. Le problème c'est que fréquemment ce fond-là est juste utilisé comme du joli décor en carton-pâte. On appelle ça MacGuffin en littérature. Oui, oui, oui. C'est-à-dire il court après un secret ésotérique. Ça pourrait être les plans d'une arme nucléaire. Ça pourrait être des secrets d'État dans une mallette. On s'en fiche. Ça n'a strictement aucune importance. Personnellement, je trouve ça un peu dommage d'avoir un terreau aussi riche et de pas s'en servir.
Et en fin de compte, on s'aperçoit que bon, on parle beaucoup de sociétés secrètes. Hein, donc j'observe ça ici dans ce qui sort, dans les livres, énormément d'organisations occultes, etc. Bon, passons sur le côté obscur d'Internet qui remue tout ce conspirationnisme qui peut avoir des conséquences. Épouvantable, surtout sur les jeunes gens.
Si on ne trouve pas de preuves, c'est justement la preuve qu'ils sont forts.
Ben voilà. Bon, mais en fin de compte, on parlait hier avec Pierre Bordage de la littérature populaire. Ben, au XIXe siècle, la littérature populaire, qu'elle soit française ou autre, elle regorge de sociétés secrètes. Hein. Alexandre Dumas, les compagnons de J.U., etc. Il y a énormément de sociétés secrètes. On est en train, là encore, de retrouver les ressorts, tout simplement, de la création romanesque, feuilletonesque. Rien de neuf sous notre soleil, d'une certaine façon.
Ce qu'on disait tout à l'heure, que le but d'un thriller, souvent, c'est de faire tourner les pages au lecteur. C'est exactement le but des feuilletonistes aussi, c'est-à-dire de créer un suspense cliffhanger, comme on dit, juste pour amener le lecteur à continuer et continuer. Donc je crois que Georges veut valider mes paroles.
Quand on parle de ce type d'intrigue avec ces sociétés secrètes qui étaient très développées à une certaine époque, maintenant le contexte a changé, Mais il y a une force romanesque et il y a une force d'attraction du lecteur qui me paraît très puissante. C'est pas seulement le mystère, mais c'est l'esthétique. Parce que toutes ces sociétés secrètes, elles ont leurs symboles, elles ont leurs rituels, elles ont leurs grimoires, elles ont dans Da Vinci Code le système de clés qui doit permettre d'accéder. Esthétiquement, c'est extrêmement frappant, extrêmement séduisant, extrêmement attractif. Ça fait des très belles couvertures de bouquins, ça fait des très belles affiches, des beaux clips. C'est très fascinant et je comprends assez bien l'attraction purement esthétique, une sorte de comment est-ce qu'on dit steampunk avant l'heure, je veux dire presque de medieval punk, enfin à ce sens-là, sous l'aspect visuel, c'est très 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 fort comme aimant.
D'accord. Bon. Ayerdal.
Oui, mais c'est Lionel l'a dit. De toute façon, ça peut être n'importe quoi. Le moteur, à partir du moment où on utilise des ressorts de la théorie du complot, le conspirationnisme. Waouh, j'ai du mal à parler moi aussi ce matin. Je sais pas. Le club Bilderberg fait très bien l'affaire. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. Et je viens de m'apercevoir que mon prochain bouquin, celui qui part en mars, finalement, c'est un thriller. Parce que c'est l'ONU. J'ai pris l'ONU, j'ai pas eu le courage de prendre Bilderberg. Non, parce que c'était chiant. Il y a déjà plein de mecs qui écrivent dessus. Quoi.
Tu craignais les hommes en noir qui allaient t'attendre la sortie.
C'est pas tellement les hommes en noir que je... C'est ceux qui sont casqués avec des grosses matraques. Bref, donc c'est vrai, voilà.
Mais c'est vrai que le thème de la conspiration, c'est un moteur romanesque extraordinaire, parce que ça fonctionne dans tous les genres, en histoire, en ésotérisme, en science-fiction, dans tous les genres ça peut marcher, hein, tout à fait. Hein. On donnera peut-être tout à l'heure la parole à cette honorable assemblée, on peut commencer... Maintenant, peut-être. Alors, il va falloir trouver. Gilles, je peux te demander de faire circuler le micro. Je crois qu'on n'a personne. Merci beaucoup. Il faut bien que tu serves à quelque chose. Il y a un micro. Si vous avez quelques questions, quelques suggestions, quelques critiques.
Ou des réponses, enfin.
Ah oui, des réponses surtout. Oui.
Oui, moi j'aurais voulu qu'on revienne justement au thriller de SF. Hein. Parce que là on a beaucoup dévié sur l'ésotérisme et tout ça. Et peut-être que ce qui pourrait intéresser, puisque c'était le sujet qui était affiché, c'est qu'est-ce qui caractérise le thriller de science-fiction ? Par opposition au thriller ésotérique, au thriller fantastique, au thriller de type polar avec le psychopathe qui court après ses victimes, etc.
Oui, je ne sais pas si on a vraiment
est-ce
en effet
donner,
répondu.
Est-ce que je peux donner un élément de réponse qui me paraît, ça me paraît très important dans le thriller SF, qui est du thriller du je parle pas, ça se passe pas en 2600, ce à quoi je pense. Je peux dire, c'est des choses qui sont à la Gibson, c'est l'époque dans laquelle mes bouquins se passent aussi. C'est la rapidité de diffusion de l'information, d'analyse de l'information, et c'est-à-dire que les personnages sont confrontés à des situations où en permanence ils doivent, ou les systèmes dont ils disposent doivent répondre et faire face dans le centième de seconde parfois. Et ça me frappe beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de fantasy, mais je lis le Trône de Fer. Dans le Trône de Fer, il peut y avoir un événement extrêmement important qui se passe au nord d'un des continents. Ça peut être la mort de l'héritier du trône, vraiment un truc très important. Dans la capitale, ils en sont informés 6 à 9 mois plus tard par des types qui chacun ont un petit peu déformé l'histoire. Hein. Dans un bouquin comme Forteresse, comme dans tous ces bouquins de SF qui se passent à une époque très high-tech, l'information, elle fait le tour du monde 4 fois dans la seconde. Hein. Et ça change les défis, ça change la façon de fonctionner des personnages.
Oui, si vous voulez aussi intervenir... Non, ils ne veulent pas.
Parce qu'il y a un genre qu'on n'a pas abordé qui, à mon avis, fait la passerelle, justement, et qui a permis que le thriller s'hybride ou que la science-fiction utilise les outils narratifs dont on vous avait parlé du thriller, c'est le cyberpunk, justement. Sans cyberpunk, je pense qu'il n'y a pas vraiment de thriller en SF. Hein. Parce que le cyberpunk a rajouté cette angoisse, cette perte d'illusion sur la conquête spatiale, cette angoisse sur l'avenir, rapprocher la fiction du présent, du contemporain, et rajouter le problème du mal qu'on retrouve dans le polar. Quoi. Le fait que l'enquête est menée par quelqu'un qui est en danger, qui peut être l'enquêteur aussi bien que la victime, ce qui caractérise beaucoup de thrillers, justement.
Ouais, on va encore être obligé de citer Gibson, du coup, voilà, quand on regarde sa carrière, est parti du cyberpunk. On va même parfois l'accuser à tort d'avoir été le créateur du genre, mais bon, il y avait d'autres personnes qui en faisaient avant lui. Il est parti du cyberpunk et puis petit à petit, il a dérivé vers le thriller et aujourd'hui, il est carrément dans le thriller politique. Faut le lire vite et le dire vite en même temps. Tu vois, mais tu as répondu à la question que tu posais, finalement.
C'est aussi l'univers de Dick transposé au cinéma. Je crois que le cinéma reflète peut-être mieux ce que vous vouliez peut-être exprimer par votre question. C'est-à-dire on voit tout de suite mieux à l'écran les ressorts du thriller dans la science-fiction, que ce soit Minority Report ou Blade Runner. On voit bien que l'agence, par exemple, toutes les dernières productions de SF sont largement calquées sur un type de cinéma qui est le cinéma de suspense. C'est en fin de compte Hitchcock transposé dans un cinéma de science-fiction.
C'est pas le montage clip même. Encore plus, parce que c'est la narration alternée, quoi. La victime, la prochaine victime, le gars qui justement doit empêcher tout ça. Et on tourne comme ça avec des courts chapitres dont tu parlais, Pierre, qui faisait une caricature. Parce que justement, c'est le montage clip qui vient du cinéma et qui a influencé la narration littéraire, quoi.
Oui, tout à fait, le montage, oui. Bon. On a le temps pour une dernière question, si vous voulez.
Bonjour, il y a deux mots que j'ai retenus en fait, c'est la définition déjà de thriller au niveau un petit peu épistémologique qui a été donnée par M. Davout, c'est-à-dire frisson, et puis l'histoire de tourner les pages. Est-ce que dans le thriller, il est automatique que ce soit un frisson de peur? Est-ce que ça peut pas être un frisson
érotique,
de passion, je sais pas, je pense par exemple ce polar de Denis Lehan, Shutter Island, qui pour moi est complètement dans le domaine du thriller. Ouais, et pourtant, on n'est pas sur de la mort ou sur du fantasme.
Tout à fait.
Il y a quelque chose d'extrêmement au niveau de l'enquête et du suspense, en fait.
C'est vrai qu'à mon sens, effectivement, le thrill, c'est pas un frisson de peur pur comme on peut l'avoir dans le fantastique lovecraftien où c'est absolument atroce, on va tous mourir ou devenir fou. Il n'y a pas beaucoup de avec toute l'affection que je porte à Lovecraft, il n'y a pas beaucoup d'échappatoires en dehors de ça. Le côté thrill, c'est vraiment le frisson de la montagne russe. C'est-à-dire, on passe par toutes les couleurs. Voilà, c'est spectaculaire, effectivement. Et le lien avec le cinéma est fort là, puisque le cinéma et l'entertainment, de façon générale, doit toujours montrer que la nouvelle sortie va être plus forte, plus grande, plus de frissons que la précédente. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'on a une thrillerisation, un peu comme on en a parlé. Donc le thrill, c'est vraiment le frisson des montagnes russes. Vous passez par toutes les couleurs, c'est des cris de joie, de peur, de waouh. C'est le waouh qui donc effectivement l'exemple de Shutter Island est très bon. C'est pas de l'angoisse vraiment à proprement parler. C'est une espèce de peur exaltante. C'est plus le côté joué à se faire peur. C'est ce frisson là à mon avis sur lequel le thriller repose.
Merci Lionel. Eh bien, c'est sur ces fortes paroles que s'achève ce panel. Merci aux participants et merci à vous.